Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.
On va parler des établissements qui accueillent des personnes handicapées avec notre invité ce matin, Michel Borel. Bonjour, monsieur Borel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur l'antenne de Vivre FM. On parle des personnes qui sont en établissement, mais on parle en particulier de celles et ceux qui, peut-être, aujourd'hui, n'ont pas de solution. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes handicapées sont aujourd'hui en attente d'une solution qui soit adaptée à leurs besoins ?
Alors, le nombre des personnes handicapées adaptées à notre, qui sont en absence de place, au niveau du mouvement UNAPI, je vais dire, on avait fait une enquête.
Donc, dans le champ du handicap mental,
dans le champ de la déficience intellectuelle, hein, on avait fait une enquête au mois de septembre et on avait dénombré plus de 45 000 personnes, en fait, qui étaient en absence de solution ou dans une place non adaptée.
Alors, vous avez créé, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin, un outil que vous avez appelé Observer, serveur comme un serveur informatique, un outil pour essayer de savoir, finalement, quels sont les besoins et où est-ce qu'ils sont. Parce qu'on a l'impression que tout le monde navigue dans le brouillard complet.
Tout le monde navigue dans le brouillard complet. Je dirais que dès 2012, le rapport Vaché disait que comment on peut faire une proposition d'offre sans connaître les besoins ? On a mis en place les MDPH.
Les maisons départementales du handicap.
Les maisons départementales du handicap qui sont là pour faire des orientations, mais ils ne se sont toujours pas munis d'outils pour suivre les orientations.
C'est-à-dire, on dit, cette personne aurait besoin d'un foyer. Alors, on dit ça, c'est l'orientation. Voilà. Et puis après, derrière, la personne frappe à la porte des foyers et on lui dit, il n'y a pas de place.
Aujourd'hui, si on prend sur des structures enfants, hein, je vois dans mon association, dans le Loiret, hein, où on a 4 IME, on a plus de 120 personnes qui sont en liste d'attente. Une famille qui a un jeune enfant qui veut aller en IME, quand elle vient dans l'IME, on lui dit, revenez dans 2 ans.
Pour un enfant qui a une...
Pour un enfant qui a entre 7 et 10 ans, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu... On pourrait comparer dans une école ordinaire. Vous allez à l'école ordinaire, on dit « Ah ben non, on ne peut pas vous prendre.
Revenez
l'année prochaine. »
Ou celle d'après.
Ou celle d'après, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une nécessité d'avoir un outil avec une vision nationale pour savoir connaître les besoins nécessaires. Et c'est aussi dans le sens où on a créé les ARS. Les ARS sont là pour faire des...
Alors, les agences régionales de santé.
Les agences régionales de
santé. Elles ont été créées, justement, pour essayer d'évaluer le besoin au niveau d'un territoire, d'une ville, d'une région, d'un canton. On se dit, on va regarder, est-ce que la personne a une réponse soit en médecine de ville, soit à l'hôpital, soit dans les établissements et services médico-sociaux. Ça marche pas.
Ça marche pas, puisque en fait, ils sont là, on leur demande de faire des programmes. Là, on est en train de faire la deuxième génération des programmes régionaux de santé. Et en fait, ils n'ont pas d'outils pour savoir les réels besoins. Donc, ça veut dire qu'on fait de la programmation...
Feeling.
Au feeling, voilà, on va dire au feeling, on dit. Voilà.
Au doigt mouillé.
Au doigt mouillé, c'est une expression qui avait été employée par Christelle Prado.
La présidente de l'UNAPI. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que vous dites des enfants en liste d'attente, si on prend cet exemple-là, dans des instituts médicaux éducatifs dans votre département, dans le Loiret, mais peut-être qu'ils sont en liste d'attente là, mais peut-être qu'ils accepteraient une orientation vers l'école ordinaire, ou ils accepteraient finalement autre chose. Comment est-ce qu'on peut savoir le besoin exact de l'enfant, par exemple, pour prendre ce cas-là ?
Alors, pour définir exactement les besoins, justement, on a fait Observer, hein, a été créé il y a 3 ans, et on a fait évoluer Observer V1 vers Observer V2, hein, c'était l'objet de l'événement d'hier, de lancement d'Observer V2, et dans cette version 2 de l'Observer, on a inclus en fait tout un système au niveau de l'inclusion scolaire et inclusion vis-à-vis du travail, de manière à bien connaître exactement quels sont les besoins et identifier les enfants qui sont dans des unités d'enseignement, identifier le temps de scolarisation, parce que c'est important.
Oui, parce qu'on dit cet enfant a une solution, il est à l'école, et en fait, il y est une demi-journée par semaine.
Moi, j'en connais qui ont 3/4 d'heure à 1h15 de scolarisation dans la semaine.
Et on appelle ça aller à l'école.
Et on leur dit qu'ils sont scolarisés.
La case est cochée dans une administration et le problème est réglé.
Voilà. Alors que, bon, est-ce qu'on peut parler de scolarisation quand on a un accompagnement d'1h15 ? Voilà.
On est avec Michel Borel ce matin. On parle de ce nouvel outil mis en place par des associations autour du champ de la déficience intellectuelle. Ça s'appelle Observer, serveur, comme un serveur informatique. On en parle ce matin pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mesurer, connaître, comprendre les besoins des personnes en situation de handicap.
Vous écoutez l'invité de la rédaction sur Vivre FM, Vincent Lockman.
Améliorer les réponses faites aux personnes handicapées, c'est l'objet de l'Observer, une association et un outil informatique créé par des associations de parents. Et pour en parler, le président de l'association Observer, Michel Borel. On parlait tout à l'heure du cas de l'école et des enfants en situation de handicap pour lesquels il y a encore et toujours des listes d'attente. On pourrait prendre l'exemple des adultes également, mais alors on va prendre la question à l'envers, par exemple. Je suis une personne qui est en situation de handicap et qui cherche un emploi. Est-ce que cette question-là, elle peut être posée aussi par l'Observer et faire état d'un besoin particulier d'accompagnement ou des meilleures réponses à apporter aux personnes ?
Alors, pour les personnes en situation de travail, comme pour la scolarisation, dans Observer V2, on a aussi ouvert tout un volet sur l'inclusion au travail. Hein, donc inclusion au travail soit dans un ESAT, soit dans une entreprise adaptée, soit travail en milieu ordinaire. Hein, donc avec accompagnement éventuellement. Donc ça nous permettra d'identifier exactement les populations, comment ils sont répartis en fonction des établissements.
Mais alors, on peut se poser la question, à partir du moment où ce sont les directeurs d'établissement qui vont remplir, qui vont renseigner cet outil de mesure des besoins, si j'ai, moi, dans mon établissement d'aide par le travail, un salarié qui me dit, un collaborateur hein, qui n'est pas salarié, qui me dit « je veux aller en milieu ordinaire », il faut que moi, qui suis très content de ce collaborateur-là, je remplisse quelque chose qui peut-être va à l'encontre de mon intérêt à moi. Est-ce qu'il n'y a pas un... Vous savez, le procès qu'on fait aux associations gestionnaires, c'est que quelquefois, elles défendent d'abord la structure avant les personnes.
Oui, mais je pense que dans nos projets associatifs, ce qu'on met en avant, c'est quand même la personne accompagnée et l'accompagnement de la personne. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de changer. Autant avant, on était sur institutions et tout, mais aujourd'hui, on est bien sur le parcours de vie de la personne. Aujourd'hui, une personne n'a pas forcément envie d'être toujours entre des murs, dans un foyer d'hébergement et tout. Et elle a envie d'avoir soit un appartement, mais avec l'accompagnement nécessaire. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir une société inclusive et vivre comme tout le monde. Hein. C'est pas d'être toujours en institution. Donc, on prône ça et on voit bien dans les projets associatifs aujourd'hui des associations que c'est bien la personne handicapée qui est mise en avant et qu'on prône, je dirais, un parcours de vie et une société inclusive.
Mais c'est quelquefois très difficile de recueillir le souhait, le désir des personnes avec un handicap intellectuel en particulier, qui n'imaginent pas, par exemple, que quand vous avez vécu 20 ans dans un foyer, vous n'imaginez pas que peut-être il y a d'autres solutions qui existent, qui seraient, par exemple, pour reprendre votre exemple, un appartement avec des travailleurs sociaux qui accompagneraient la personne.
Donc c'est sûr que c'est très difficile d'avoir le consentement des personnes, et y compris des familles qui ne veulent pas forcément mettre leur enfant adulte dans des situations, je dirais, d'autonomie. Mais on s'aperçoit que grâce à toutes les expériences qui sont faites dans toutes les associations, hein, expériences au niveau des structures d'habitat et tout, on s'aperçoit que les personnes sont capables, en fait, ont un degré d'autonomie et sont capables de se prendre en main. On le voit également je vois dans mon association, dans mon conseil d'administration, j'ai trois personnes handicapées.
Vous êtes dans le Loiret.
Dans le Loiret. Il y a trois personnes handicapées qui font partie, en fait, du conseil d'administration. Et ça fait deux ans et demi qu'ils sont dans le conseil d'administration. Quand on discute avec les professionnels et tout aujourd'hui, ils se disent, mais c'est marrant, leur comportement a énormément évolué parce qu'ils se sentent investis de quelque chose. Donc ça veut dire qu'ils ont tous une capacité en fait à faire quelque chose et à développer leur autonomie, et c'est bien là-dessus qu'on doit travailler. Et aujourd'hui, on voit bien le parcours d'une personne, il faut vraiment l'acteur le mieux placé pour connaître le besoin et ce dont il a envie, c'est bien la personne, il faut bien partir de là.
Encore faut-il qu'elle ait une vision large des possibilités, parce que quelquefois, on ne sait pas forcément ce qui peut exister, y compris quelquefois au coin de la rue.
Donc c'est là qu'on, nous, on joue un rôle justement pour les accompagner, pour leur expliquer quels sont tout ce qui peut exister sur le territoire.
L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30, Vincent Lockman.
On parle de l'Observeur ce matin sur l'antenne de Vivre FM avec le président de l'association, Michel Borel, une association créée par des structures du mouvement UNAPI, l'UNAPI principale union, association, qui travaille autour de la déficience intellectuelle. Un peu partout en France, des associations se sont réunies pour essayer de recenser les besoins, d'imaginer ce que pouvaient être aussi les établissements de demain. Alors, comment vous faites pour connaître les besoins des gens, j'allais dire, qui sont nulle part, qui sont dans la nature, qui n'ont trouvé de place nulle part, et en particulier, peut-être de ceux qui sont les plus lourdement handicapés?
Alors, il y a, je dirais, allez, je vais classer en trois catégories. On a les personnes qui sont en établissement, donc ça, c'est facile.
Ceux-là, on les connaît, ils sont là.
On les connaît, c'est facile. On va avoir les personnes qui ont fait une démarche vis-à-vis de la MDPH et qui ont une notification.
Donc, ils ont frappé à la porte de la maison départementale du handicap, ils ont demandé
ils ont une orientation qui a été donnée par la commission des droits. Donc, on leur dit, voilà, allez voir tel et tel établissement. Donc là, c'est le parcours du combattant, ils vont dans les établissements.
Ils frappent à toutes les portes et on leur dit, allez voir
surtout,
à côté.
On vous inscrit sur liste d'attente. Donc ceux-là, avec l'outil, on va les avoir dans nos listes d'attente. Ensuite, il y a toutes les personnes, comme vous dites, qui sont vraiment sans solution, voire non recensées au niveau des MDPH. Et je dirais, ce qui fait la force d'une association de mouvance parentale, c'est qu'on a ce qu'on appelle des commissions d'action familiale et tout, qui font... ils sont connus au niveau du territoire et on est capable, en fait, d'identifier des personnes souvent... On rencontre de plus en plus souvent des personnes handicapées vieillissantes qui vivent encore aujourd'hui chez leurs parents qui ont plus de 80 ans et on sait que c'est des situations à risque.
Qui ont renoncé à faire valoir leurs droits parce qu'ils en ont marre de remplir des dossiers
qui
ne débouchent jamais.
Mais par contre, le jour où les parents décèdent, c'est des personnes où il faut trouver une solution. Donc c'est grâce à l'action familiale, en fait, et qu'on pourra recenser ces personnes-là.
Alors, on va revenir sur l'exemple que vous dites, parce que effectivement, les familles frappent aux portes d'établissements que vous pouvez gérer de votre côté. Quelquefois, on dit, y a pas de place, donc revenez l'année prochaine. Mais quelquefois, le discours un peu plus nuancé que ça, c'est-à-dire qu'on vous arrivez avec votre dossier, et puis on dit, regardez, il est épileptique, et nous, on prend pas ce type de difficulté-là. Ou bien, regardez, il a telle ou telle particularité, et on prend pas ce type de difficultés là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité que les établissements s'adaptent davantage aux besoins des personnes?
Alors, par rapport à ce point-là, c'est sûr que on voit bien cette responsabilité de l'établissement, en fait, de prendre une personne dans son établissement.
Le directeur, il fait ce qu'il veut.
Le directeur, c'est lui qui fait le choix et c'est lui qui doit regarder. C'est-à-dire aujourd'hui, une MDPH ne peut pas imposer quelque chose à un établissement. Par contre, on a, depuis l'affaire Amélie Loquet, qui était une affaire qui remonte à 2-3 ans, il a été créé, en fait, je dirais, des commissions de situations complexes, pilotées par les ARS, les conseils départementaux.
C'est-à-dire que l'Agence régionale de santé peut imposer une personne à un établissement?
C'est-à-dire pour des personnes qui sont vraiment dans des cas... complexe et sans solution.
Il y a quelquefois des cas critiques avec des vraies mises en danger.
Voilà, avec des vraies mises en danger. On a des commissions qui doivent exister dans chaque département. Et là, il faut solliciter ces commissions-là pour que les ARS et les conseils départementaux travaillent avec les associations pour trouver des solutions.
Exemple, chez vous, dans le Loiret, ça marche?
Alors, on a cette commission qui est en œuvre et... j'ai 2-3 exemples, en fait, de solutions qui se sont réalisées dans les derniers mois. Soit ils ont changé l'agrément d'un établissement pour une durée, pour pouvoir accueillir une personne. C'est un travail qui se fait collectivement entre MDPH, ARS et puis les associations.
Mais on dit quelquefois que finalement les directeurs d'établissement choisissent les personnes qui sont finalement les plus simples à gérer et que les cas les plus difficiles, ce sont toujours les mêmes, handicaps lourds ou des handicaps complexes avec deux types de difficultés, par exemple, qui seraient associés, et que ces cas-là, et justement peut-être que votre outil permettra de les mettre en évidence, ne trouvent pas de solution.
C'est vrai que l'outil, je me souviens par exemple chez moi, où souvent on me disait, dans nos ESAT, on a de plus en plus de travailleurs avec du handicap psychique. Lorsqu'on a mis Observeur en place, il s'est avéré qu'en fait, c'était pas du tout fondé. Mais c'était un a priori. On se disait, il y a de plus en plus de travailleurs avec handicap psychique, mais on s'est aperçu à travers ces indicateurs que c'était faux. Par contre, on s'est aperçu que dans un IME, on avait beaucoup d'enfants qui étaient diagnostiqués par diagnostiqués autisme et qu'on n'avait pas de section autiste dans l'établissement et qu'il fallait absolument qu'on fasse monter en puissance en fait le plateau technique pour accompagner ces personnes-là. Donc c'est grâce à ça que ça peut servir Observer en fait, c'est à faire évoluer en fait l'accompagnement dans nos établissements.
Il y a un mouvement de fond dans cette société qui est l'inclusion des personnes handicapées en milieu ordinaire. Le mouvement est très largement engagé autour de l'école. Il pourrait démarrer et s'amplifier autour du travail et qu'on voit les personnes qui sont aujourd'hui dans des établissements médico-sociaux qui travaillent mais qui n'ont pas le statut de salarié, hein, pour le rappeler, pour évoluer vers un statut ordinaire. Est-ce que votre outil il permet, par exemple, d'anticiper, de prévoir ce que pourraient être les besoins dans 10 ans, dans 20 ans, d'accompagnement de ceux qui ont fait aujourd'hui leur parcours à l'école ordinaire?
Donc aujourd'hui, notre outil, on l'a bâti pour avoir une vision prospective à 2 et 5 ans. Hein, c'est-à-dire à chaque fois, pour chaque personne, en fait, on essaye de projeter à 2 et 5 ans hein, pour voir comment sera sa personne. L'outil va nous permettre... je vais prendre un exemple. Exemple, on a des personnes handicapées dans nos foyers d'hébergement qui sont en couple. Une personne arrive à l'âge de... veut partir en retraite, elle n'est plus en capacité de travail... Aujourd'hui, la MDPH lui dit bah, « Vous n'avez plus droit au foyer d'hébergement. »
Et vous ne travaillez plus.
Vous ne travaillez plus.
Changement
vous
de plus case.
Changement de case. Vous n'avez plus droit au foyer d'hébergement. On ne s'occupe pas que la personne vit en couple avec un autre. Hein, c'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, elle se retrouve séparée de son ami.
Son compagnon.
Hein, oui. Et de son compagnon, sous prétexte qu'elle est en retraite. Et j'ai vécu ça, moi, il y a 2 ans, dans mon département. Mais... on est vraiment, on gère les gens. Grâce à l'outil, on va pouvoir savoir, attention, parce qu'on identifie hein, les gens qui vivent en couple, qui sont paxés et tout, on va pouvoir se projeter justement par rapport à ces situations-là. On va pouvoir se projeter par rapport à des personnes qui vont bientôt arriver, qui sont hébergées chez leurs parents. Et on a une courbe, on a mis une pyramide des âges des parents justement pour voir exactement, attention, il va y avoir un problème un jour si on ne trouve pas une solution d'accompagnement à cette personne. Ça permet vraiment de tracer le parcours de vie de la personne et d'anticiper et d'avoir une vision prospective. Et c'est ça, c'est vraiment ça l'objet.
Merci d'être venu nous voir ce matin, Michel Borel. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Observer. Il y a un site internet, on donne une
alors, le
indication
site, le site internet est en cours, il sera opérationnel à partir du mois de juin.
Observer.org, on en reparlera sur l'antenne de Vivre FM. Merci d'être venu nous voir ce matin pour nous parler de cet outil pour évaluer les besoins. Et on sait qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des réponses.
Merci.
Adaptées au cas de chacun et ne pas mettre les gens dans des cases, c'est sans doute... un des pires travers qui soit. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Michel Borel, ce matin.
Merci.
Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.